Mais on va d'abord faire le point sur Hugo Fredette, son procès donc qui devait commencer lundi, qui a été reporté à aujourd'hui, puis aujourd'hui c'est encore reporté. Pendant ce temps, on cherche toujours Monsieur Lacasse, Yvon Lacasse, hein, toujours pas de on a toujours on l'a pas trouvé et on le cherche toujours. Alors moi, je me posais la question, là, c'est bien beau, reporter, mais qu'est-ce qui se passe avec ce procès d'Hugo Fredette, la Cour supérieure, un matin, qui a ordonné une évaluation pour déterminer s'il était apte à comparaître. À partir de quel moment tu es jugé apte à comparaître? On va poser la question à Nicole Gibault, qui est juge à la retraite de la Cour du Québec. Bonjour, Madame la juge.
Bonjour, Bernard.
Alors, dites-nous, je veux dire, à partir de quand quelqu'un est jugé apte à subir son procès?
Bien, là, c'est vraiment, vraiment la première étape. Ça arrive assez régulièrement, par exemple. Je peux vous dire, là, ici, c'est un contexte évidemment très particulier parce que si on s'était parlé vendredi matin ou samedi, s'il avait été transféré, on parlerait possiblement pas de ça parce qu'il serait pas intervenu, il serait pas arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire que on a compris qu'il avait peut-être tenté de se suicider ou enfin de s'affliger des blessures. Et par la suite, ben c'est suite à ceci qu'il aurait été anesthésié et là, il serait pas revenu du coma. Donc là, ils sont confrontés, là, c'est assez délicat, je vais vous avouer, là, ils sont confrontés avec la situation suivante. Est-ce qu'il est capable, les médecins, eux autres, la justice est importante et bien importante. Ils vont respecter à la lettre toute ordonnance que les... puis ça, j'ai jamais eu de problème dans toute ma carrière, mais ça leur prend une ordonnance. C'est clair, là. Ils ont, vous savez... Le procureur de M. Fredette disait « Je suis soumis au secret professionnel ». Ben, les médecins sont très soumis au secret professionnel également. Donc, par conséquent, ils ne donneront aucune information ni à l'avocat, ni à quiconque, la police, à moins d'une ordonnance du tribunal. Donc, c'est là qu'on en est. Pourquoi le faire? Parce que qu'est-ce qui est arrivé là dans l'anesthésie? Est-ce qu'il est capable mentalement de comprendre les procédures judiciaires? Pas au moment de l'infraction alléguée, mais là, en ce moment, est-ce qu'il comprend là, pourquoi, où il en est? Est-ce qu'il communique, est capable de communiquer avec son avocat? Est-ce qu'il est capable de l'informer, de lui donner de l'information, de le guider? Ça, c'est absolument essentiel pour le tribunal de savoir ceci, et pour le procureur de la Couronne aussi. Là. Donc, c'est ça qu'on fait présentement. C'est pas long, ces évaluations-là, normalement. C'est pour savoir s'il est en mesure de comprendre les procédures, de les communiquer à son avocat et de suivre le processus. Maintenant, ça peut durer, je vous dirais, quelque temps. Là.
C'est quoi sur quelque temps, là?
Alors, ça peut durer quelque temps, puis je veux vous rassurer là-dessus. Quelqu'un qui n'est pas apte à ce stade-ci, là, parce qu'il ne comprend pas nécessairement à cause de l'anesthésie, qu'est-ce que ça a fait à son cerveau, on ne le sait pas, on va le voir, là, dans quelles circonstances il est, dans quelles circonstances se trouve-t-il présentement au niveau médical. Ben, s'il est apte dans 4 jours et que le tribunal a ordonné, par exemple, 4 jours après le rapport qui dit qu'il n'est pas apte, mettons qu'on en arrive à dire non, il ne l'est pas. Mais ça se peut que ce soit la semaine d'après qu'il devienne apte. Puis ça n'arrête pas là, dans les circonstances. Là. On n'arrête pas du tout les procédures judiciaires. On ne fait que les suspendre pour que on puisse obtenir la certitude qu'il est il est capable de comprendre les procédures judiciaires.
C'est quoi la différence entre l'aptitude à comparaître puis à partir de quand on tombe dans la non-responsabilité criminelle, Madame la juge?
Alors, la non-responsabilité criminelle, c'est un autre processus d'évaluation pour savoir si au moment de l'infraction, c'est-à-dire au moment où le meurtre présumé là, que monsieur est allégué d'avoir fait ce meurtre-là jeudi en question de la semaine dernière, au moment même où il aurait commis, est-ce qu'il était en mesure de comprendre, est-ce qu'il était complètement déconnecté de la réalité? Ça, c'est de la non-responsabilité criminelle, article 16. Puis ça n'exclut pas qu'on peut l'invoquer, mais on n'est pas là du tout.
OK, là, on est carrément dans l'aptitude à comparaître. Alors, mettons là que Alors, l'ordonnance, donc, c'est dans le fond pour obliger les médecins à collaborer, c'est bien ça?
Oui, puis je trouve ça intéressant parce que eux respectent leur secret professionnel puis leur obligation, mm-hmm. et ils vont respecter également les ordonnances du tribunal, j'ai aucun doute. Et puis, tout le monde fait son travail, puis on va obtenir de l'information à ce moment-là.
C'est bon, Madame la juge, mais moi, je veux savoir, là, si jamais il y a des dommages, des séquelles qui ont été subies... Enfin, qu'a subi Hugo Fredette, soit à cause de l'anesthésie, soit à cause de la tentative de suicide, il arrive quoi, là? Est-ce que c'est arrivé? J'imagine qu'on juge que la personne n'est pas apte à subir son procès. Elle n'a juste pas la santé.
Oui, c'est, et moi, je l'ai déjà vu dans des dossiers que j'ai présidés. Et ça a été long, mais éventuellement, avec évidemment là, tout le processus médical qui est intervenu dans ce genre de dossier-là. Des fois, c'est plus long. Ici, on parle d'un état semi-comateux ou comateux total. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment médical tout à fait. Ça relève des médecins. Mais oui, ça peut être un mois, deux mois, trois mois, mais ça n'empêche rien du processus. On n'arrêtera pas, on plaide pas Jordan là, parce qu'on a mois pour que quelqu'un... Non, non, non. Faut pas s'inquiéter là-dessus. C'est vraiment particulier là, dans les circonstances. Là.
Là, si on ne retrouve pas Yvon Lacasse,
mm-hmm.
OK? On retrouve... Puis là, je présume pas qu'il est mort, M. Lacasse. Là.
Non.
Mais mettons qu'on ne le retrouve pas.
Oui.
On ne retrouve pas de corps, rien. Est-ce que Hugo Fredette pourrait être accusé du meurtre de M. Lacasse, même si on ne retrouve jamais trace de M. Lacasse?
Oui, c'est une possibilité. C'est toujours beaucoup, beaucoup plus difficile. Et j'oublie le nom du dossier. Il y a un dossier à Québec. On s'est repris par deux fois qu'est-ce que c'est le nom? Mais on n'a effectivement jamais trouvé le corps de cette dame-là. Il a été trouvé coupable après une opération Mr. Big. Là. J'ai pas le nom en tête. Mais oui, le corps n'a jamais été retrouvé. Ça dépend beaucoup, beaucoup, beaucoup de la preuve que la couronne détiendrait à ce moment-là. Évidemment, si on n'a pas de corps, puis on n'a pas de preuve, puis on n'a pas de lien direct autre que, il aurait présumément volé son véhicule, puis il y aurait ci, puis il y aurait ça. Non, ça prend une preuve. C'est seulement l'ensemble de toutes les preuves que le DPCP pourrait avoir, les petites pièces de preuve, et ou un aveu, s'il y en avait un, et ou une absence d'aveu, mais concomitant avec d'autres genres de preuves. Alors, il y a une panoplie de choses que le DPCP peut posséder, même et accuser. Mais c'est pas évident. Là. C'est bien plus difficile.
Et une dernière question, Madame la juge. Il arrive quoi avec le jeune garçon, le petit garçon qu'on ne peut plus nommer, là? Est-ce qu'il est remis à la famille? Parce qu'on sait que la maman est décédée, le papa est accusé. Est-ce que c'est un frère ou une sœur de la maman qui peut s'offrir pour le prendre? Est-ce que c'est les grands-parents? Comment ça fonctionne avec le petit?
En ce moment, évidemment, la direction de la protection de la jeunesse, j'ai compris qu'il était au dossier, et ça, c'est top secret. Ils ne divulgueront absolument rien et avec raison. Mais connaissant un peu les politiques là, dans ce domaine, c'est sûr qu'on va tout faire pour privilégier la famille qui entoure, sans avoir une obligation, là, parce que c'est sûr que s'il n'y avait pas de famille qui était apte à le prendre pour X nombre de raisons, là, mais on va vraiment y aller dans l'intérêt de l'enfant et dans les circonstances très particulières où il a perdu sa mère, c'est clair, et il a carrément perdu son père pour un grand bout, là. Alors oui, on va évaluer tout ceci et c'est en fonction de ces critères-là, dans son intérêt, seulement que dans son intérêt à lui. Et c'est sûr qu'on va tenter de tout faire pour privilégier que ce pauvre petit garçon-là soit avec des gens qu'il connaît en toute sécurité, puis bien entouré, bien aimé. Parce que ça va être très, 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 très difficile. Puis il faut qu'ils soient entourés également de psychologues puis d'une panoplie là, de professionnels avec lui.
On n'ose pas s'imaginer ce que ce petit-là a vécu.
Non, même pas.
Nicole Gibeault, juge à la retraite de la Cour du Québec. Merci, c'est toujours un plaisir.
Plaisir, Bernard. Au revoir. Merci beaucoup.
On s'arrête un instant et au retour, on vous parle du Mexique. On va aller à Mexico faire le point sur sa situation. Puis on va également parler à quelqu'un là, qui peut nous donner les toutes dernières nouvelles à propos de ce jeune stagiaire québécois qu'on cherche encore là.